CFAQ.ca.
Le balado que vous écoutez est une exclusivité de CFAQ.
CFAQ 88.3, l'essence de la radio.
Bonjour et bienvenue à Littéralement Vôtre, votre émission littéraire au CFAQ 88.3. Bonjour Roxane, comment ça va aujourd'hui?
Bonjour Albert, ça va super bien et toi?
Oui, merci. Écoute, il fait beau aujourd'hui, on est bien, on est en train d'enregistrer ça lundi, journée de congé. Il y a même ton propriétaire qui est en train de tondre la tondeuse, si je ne m'abuse.
Ben oui, il est en train de faire la pelouse comme ça, ce beau lundi. Ça prouve quand même que le printemps est bien avancé puis que l'été s'en vient.
C'est quelque chose d'optimiste, de motivant. Je pense que même si ça cause un petit problème au niveau de l'enregistrement, c'est quelque chose de positif, puis on va le tourner positif. Parce qu'aujourd'hui, on a un épisode extrêmement intéressant parce qu'on commence notre cours de littérature littéralement vôtre. On va recevoir la professeure Sarah Rocheville qui va venir nous parler de « Les vagues » de Virginia Woolf.
Oui, on l'avait annoncé la semaine passée d'ailleurs qu'on allait parler avec la professeure Rocheville de ce livre-là. Mais là, c'est là qu'on met en branle un peu les bases pour ce défi de lecture-là. Puis on rappelle aux auditeurs que vous pouvez participer au défi de lecture avec nous. Vous pouvez vous procurer le livre puis nous suivre dans la lecture de cette œuvre-là. Il n'y a pas de problème, on vous encourage même à le faire. Puis si vous voulez même participer, envoyez-nous un message Facebook pour voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça.
Oui, donc ce serait bien aussi, on pourrait essayer d'avoir des témoignages de votre lecture pour essayer de vous inclure aussi dans ce défi, dans ce cours de littérature. Sans plus tarder, je pense, on va commencer tout de suite en chanson, comme d'habitude, avec la chanson « Locale » de Sarah May, qui fait la promotion de l'achat local en cette période de pandémie. On l'écoute.
Lune m'a abordé, un autre univers m'a abordé. Les étoiles à ma portée, le soleil sève, qu'est-ce qu'il va m'apporter? Derrière, j'ai claqué ma porte, j'avance en me laissant emporter comme le vent. Hey. Et je plane en marchant, Dédé Fortin dans les écouteurs, je m'arrête chez un petit marchand. Il me raconte les détails de l'histoire, le détail. Ça, l'économie, le transport des aliments, l'environnement, l'écologie. Taxer chez nos marchands, mais ils doivent payer des logis. C'est ici que je mettrai ma monnaie, pour moi c'est logique. J'préfère acheter les choses quand c'est à proximité. On a de grandes ressources, faut bien en profiter. J'préfère acheter les choses quand c'est à proximité. On a de grandes ressources, faut bien en profiter.
Je suis plein de billets, billets.
On danse toute la. Je suis à downtown de Bleury à McGill. On sort sur Crescent. On danse toute la nuit.
Mes poumons sont encore là. Dans les ports, j'ai l'air contemporain. Mais ça va, c'est bon, je m'en sors. Dans les écouteurs de Défort, il me dit t'es fort, yeah. Il me parle. Je suis sur 5-4. Plein de billets, je magasine local. Faut qu'on garde ça national.
J'préfère acheter mes choses quand c'est à proximité. On a de grandes ressources, faut bien en profiter. J'préfère acheter mes choses quand c'est à proximité. On a de grandes ressources, faut bien en profiter.
Ce sont mon local, écoute ça et danse local. J'suis stylé, c'est local. Deux fois pas, j'fais local. Récolte tes produits dérivés, mais permettez-nous d'exister. Force locale.
Rebonjour, vous êtes toujours à l'écoute de Littéralement Vôtre sur les ondes de CFAC 88.3. On est de retour, Albert, avec nos chroniques un peu littéraires. Qu'est-ce qu'on a lu, qu'est-ce qu'on critique cette semaine? Vu qu'on a un petit peu moins de temps que d'habitude, on va y aller rondement. Moi, Albert, le livre que je te propose aujourd'hui, c'est une bande dessinée. Ça s'appelle La Grosse LED, qui a été écrit et illustré par Marie-Noëlle Hébert et publié aux éditions Quai numéro 5. Okay. C'est une BD, ma foi, vraiment impressionnante. Avec le titre, je m'attendais à un ouvrage super féministe de revendication, de body positivity, tout ça. Honnêtement, j'ai pas été déçue, mais je m'attendais à moins de mise à nu. Comme l'autrice raconte sa propre histoire là-dedans, c'est une BD narration à la première personne, ce qui est un peu étrange pour une bande dessinée. C'est étirer un peu le genre, ce que j'ai beaucoup aimé. Elle raconte un peu son histoire, puis comment grandir grosse, ça a une influence quand même dans la vie. En quoi son poids, puis tout ça, a eu une influence sur sa santé psychologique, sur ses relations avec les autres, sur sa perception d'elle-même, puis tout ça. Pis on peut voir l'évolution aussi en vieillissant de sa perception corporelle, puis de comment aujourd'hui elle se sent par rapport à son corps. C'est pas un ouvrage positif. C'est pas quelque chose qui... Tu sais, c'est quelque chose qui fait du bien dans le sens où si t'as eu vécu ces problématiques-là, tu te sens interpellé. Mais c'est pas un feel-good bande dessinée, là. Tu te sens pas nécessairement mieux après avoir lu ça. Tu te sens peut-être juste moins tout seul.
Cette BD-là, elle couvre quelle période de la vie de l'autrice?
De sa petite enfance jusqu'à l'âge qu'elle a en ce moment, là. C'est une jeune adulte qui doit avoir à peu près notre âge, là. C'est comme la trentaine, okay, à peu près, là.
OK. Puis c'est pas positif du tout. Est-ce que tu t'es reconnu un petit peu dans le personnage, dans certaines choses qui arrivent au personnage? Est-ce que toi, t'as eu une connexion avec le personnage?
Ben comme elle, moi aussi, j'ai toujours été grosse. Donc, je me suis reconnue, surtout dans les phases de l'adolescence avec elle, à quel point comme c'est difficile de s'aimer soi-même quand t'as une perception très négative de ton corps. Donc, je me suis vraiment reconnue là-dedans, mais c'est pas que négatif aussi, là. Je veux dire, elle réussit quand même à créer des relations positives puis à améliorer les relations qu'elle a avec sa famille. Mais on peut voir que tout est teinté. L'ouvrage est d'ailleurs en noir et blanc. Pas okay, nécessairement pour rendre ça plus dark, mais comme pour mieux exprimer l'état d'esprit, j'imagine. Ou
est-ce que c'est quelque chose qui est lourd à lire?
Lourd à lire, je sais pas. Mais c'est un sujet quand même dark, là. Si tu pensais faire une petite lecture sur le bord de la plage, c'est pas le bon livre. Par contre, okay, ça peut mener à réfléchir, puis je le conseille nécessairement à tous les parents qui peuvent avoir des enfants en surpoids, puis pour qu'ils puissent comprendre un peu qu'est-ce qui se passe dans leur tête. De mon expérience, c'est quand même assez précis sur qu'est-ce que tu vis en grandissant en surpoids, puis tout ça. Tu sais, à part, admettons, de s'habiller dans le rayon des adultes quand t'es pas un adulte, à quel point tu te ramasses avec des vêtements qui te ressemblent pas, puis tu peux pas vraiment exprimer ta personnalité par ton style vestimentaire quand t'es pas les tailles standards. On parle aussi des relations amoureuses, à quel point c'est difficile de créer des liens affectifs nécessaires quand toi t'aimes pas ton corps. C'est peut-être là où je me dissocie un peu de l'autrice par rapport au fait que moi j'ai pas vécu ça. Mais je comprends quand même son point, puis je comprends quand même son vécu. C'est vraiment une mise à nu de sa part, puis c'est vraiment un beau témoignage de c'est quoi la vie pour une personne qui est pas dans les standards de la société.
Donc, c'est quelque chose que tu recommanderais autant à des parents qu'à des personnes qui peuvent vivre cette situation-là, qu'à n'importe qui aussi, j'imagine, parce que ça doit apporter une certaine sensibilité à cet enjeu qui est la grossophobie dont on entend de plus en plus parler de nos jours.
Tout à fait.
Écoute, je vais enchaîner avec ma lecture de la semaine. Moi non plus, c'est pas quelque chose de très positif, donc on s'excuse aux personnes qui nous écoutent pour cette chronique un petit peu plus pessimiste aujourd'hui. C'est une œuvre de littérature plus qu'un roman. C'est « Chienne » de Marie-Pierre Lafontaine. C'est une autofiction dans une famille où il y a un père sadique qui fait régner là, vraiment la terreur partout. En fait, c'est exactement ce que dit le quatrième de couverture. Là. Le projet est simple, d'écrire avec précision l'effroyable barbarie d'un homme qui roue sa fille de coups, qui la tient en laisse, qui la force à marcher à quatre pattes, à manger sous la table, sans que la mère s'interpose jamais. Personne ne s'étonnera si l'enfant, devenu grande, finit par mordre. Donc, c'est vraiment... C'est pas quelque chose qui est long à lire. Je te dirais que ça se lit en, ça pourrait se lire en une seule fois, sauf que il y a plusieurs fois où j'ai dû mettre la tablette de côté, parce que oui, je l'ai lu sur une tablette encore une fois cette semaine, parce que c'est juste effroyable tout ce qui est arrivé. Ben c'est une autofiction, donc. C'est la ligne est parfois mince entre la réalité et la fiction, mais de tous les sentiments qui sont relayés au travers de cette écriture-là, quand je dis que c'est plus une œuvre de littérature qu'un roman, c'est on passe au travers d'étapes que je croyais même pas possibles. C'est vraiment inhumain tout ce que le père a fait subir à la fille, puis de sentir aussi l'impuissance de la mère dans tout ça, qui fait rien non plus, qui est consciente de tous les actes que le père fait subir à l'autrice, mais qui fait rien avec tout ça. Vraiment, c'est pas une lecture que je recommanderais à tout le monde, là, parce que clairement, ça pourrait venir réouvrir certaines douleurs chez des personnes qui pourraient avoir subi des agressions sexuelles ou bien... Des attouchements, ou peu importe qui a été victime de n'importe quel autre crime de la sorte, là, parce que c'est pas pour les cœurs sensibles, là, cette lecture-là.
Donc, c'est pas à conseiller à tous?
Non, définitivement pas. Écoute, c'est une première œuvre pour l'autrice. J'ai hâte de voir si elle va sortir autre chose, parce que vraiment, c'est venu me chercher, là. Comme je le dis, c'est super court, c'est 90 pages, et puis c'est pas toutes les pages qui sont complètement remplies, là, donc c'est pas de la poésie, mais on passe au travers d'une enfance troublée, et puis moi vraiment c'est venu me chercher, puis c'est impossible de rendre justice à cette œuvre-là. Je pense que faut la lire, mais si on la lit, il faut faire vraiment attention, parce que c'est quelque chose d'assez sombre.
Ok, c'est bon. Puis là-dessus, est-ce que tu penses qu'on va trop loin? Ou est-ce qu'on arrête quand même dans le raisonnable?
Qu'est-ce que tu veux dire?
Est-ce que tu penses que c'est trop? Parce que là, on est dans l'autofiction, on n'est pas nécessairement dans le récit témoignage. Est-ce que tu penses qu'on va trop loin ou est-ce qu'on reste dans le réaliste?
Non, c'est du réaliste. Je veux dire... J'ai été capable de m'imaginer certaines scènes sans nécessairement le vouloir en lisant tout ça. Puis il y a aucun moment où je me dis, ah, là, elle va trop loin, là, ça se peut plus. Vraiment, là, elle nous fait sentir comme si ça l'arrivait pour de vrai. Et puis, en tout cas, ça m'a vraiment touché là, comme œuvre. Donc, je pense que. Avec tout ça, sur cette note, on va continuer en musique avec une chanson de l'Impératrice, la chanson « Fou ».
Ça démarre au quart de tour, la pensée fait des tours, et plus la montre tourne, plus tu perds le nord. On te dit de rester sourd, de taper des tambours, le fond de l'air est lourd, et tu dérives encore. Tu fais juste illusion, tu poursuis tes pulsions avant qu'elles s'évaporent. passé les premiers frissons, passé le mur du con, t'as enfin pu dire non, et tu l'as dit très fort. Mentir pas permis, faiblir interdit, sois cool, sois poli. Dans l'ordre établi, tu cherches la sortie, bye bye les gentils.
Donc, vous êtes de retour à Littéralement Vôtre sur les ondes de CFAC 88,3. Et comme mentionné en introduction, on a la chance d'avoir avec nous professeur Sarah Rocheville, experte en Virginia Woolf. Professeur Rocheville, bonjour.
Bonjour. Je ne sais pas si je suis une experte, mais je suis certainement une fan de Virginia Woolf depuis de nombreuses années.
Ben, selon moi, vous êtes une sommité
non,
la matière à Sherbrooke. À Sherbrooke, du moins, c'est certain.
Mais en fait, c'est que pour être une sommité, il faut avoir publié. J'ai peu publié, mais je l'enseigne quand même depuis plusieurs années. Et j'ai compris que vous vous attaquiez cet été au partage des textes très difficiles, mais qui n'ont pas la principale qualité d'être difficiles, mais d'être extraordinairement intéressants, mais difficiles. C'est ça?
Ben oui, parce que en fait, j'aimerais le mentionner, quand je vous ai proposé cette aventure d'analyser ensemble les vagues, vous m'avez tout de suite répondu que vous verriez mal refuser de présenter l'œuvre la plus importante puis la plus belle au monde, selon vous.
Oui, effectivement. Moi, le secret des vagues de Virginia Woolf, parce qu'on va parler de ce texte, qui est, on peut dire que c'est un texte en prose, donc c'est un roman. C'est pas un roman dans sa forme traditionnelle, mais c'est un roman. Et le secret de ce roman m'a été transmis par un professeur que j'ai eu quand j'étais au bac en littérature, qui est Yvon Rivard. Et Yvon Rivard est une sommité par rapport à Virginia Woolf, parce que lui-même, il est romancier, et dans ses romans, il parle à Virginia Woolf. Donc, c'est vraiment, elle fait partie de sa vie, et il était tellement passionné en classe que finalement, j'ai commencé à lire il y a une vingtaine d'années, et depuis, je le lis chaque année, et vraiment, je découvre des nouvelles choses à chaque année. Mais voilà.
Donc, définitivement, ça vaut la peine de s'y attarder puis de prendre le temps de de vraiment
oui.
bien plonger dans l'œuvre. Puis oui. aussi, je pense que c'est important de s'attarder à l'autrice, Virginia Woolf, en tant que telle.
Oui, Virginia Woolf, c'est vraiment un personnage super intéressant qui est assez fascinante, puis qu'on redécouvre notamment avec les études féministes depuis une vingtaine d'années. Mais oui, si vous voulez que je vous parle de Virginia Woolf, elle est née le 25 janvier 1882 à Londres, donc c'est une Britannique. Elle est issue d'une grande famille, là, vraiment de victoriens. Elle a été très importante parce qu'elle a, pour ainsi dire, dégagé le roman anglais d'une tradition très, 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 très forte.
Parce que c'est ça, quand on pourrait dire que si on dit à quelqu'un, ah oui, cet été, on va analyser ouais. une œuvre de littérature anglaise, ouais. à la base, les personnes pourraient être un peu répugnées parce que justement, ça a cette identité-là d'être une littérature qui est lourde et qui n'est pas nécessairement très intéressante non plus tout le temps.
Non, non, c'est parce que vous ne comprenez pas, là, c'est le grand livre. Les Vagues, là, c'est le roman de l'avenir. C'est l'histoire de 6 personnages, 6 consciences. C'est elle qui est vraiment la plus représentative de ce qu'on appelle le stream of consciousness. C'est l'espèce de courant de la conscience. Elle fait des biographies de l'être. Il y a 6 personnages dans les vagues. Les vagues, c'est comme si les 6 personnages se relayaient comme le mouvement de vagues vraiment sur une plage, et ces 6 personnages sont à la fois différents et liés par une amitié très grande. Donc, au début, quand on lit les vagues, là, on ne comprend rien. Je vous le dis là, on ne comprend rien. Mais plus on le lit, et là, je suis tellement honorée de pouvoir le présenter peut-être à certains auditeurs qui aimeraient se lancer dans l'aventure des vagues, plus on le lit, mieux on comprend et plus on sait de qui il est question. Parce que chaque personnage, au fond, on assiste à la transformation de sa conscience. C'est vraiment l'invention du monologue intérieur. C'est 6 personnages qui parlent l'un après l'autre. Ils ont des noms, là. Il y a Rhoda, Suzanne, Neville, Louis, Ginny et Bernard. Ça, c'est les 6 personnages. Et les 6 vont dire « Ah, j'étais dehors sous le soleil », dit Bernard. « Ah, j'ai vu une feuille », dit Suzanne. Donc, on a toujours dit Bernard, dit Suzanne, dit Louis, et tout ça se chevauche pour en arriver. Au début, on ne les distingue pas vraiment, les voix, mais après, on les distingue tellement qu'on les connaît et deviennent nos amis, puis on assiste à toute leur vie. C'est ça, les vagues. C'est la vie de 6 personnes, 6 consciences qui cherchent un sens à leur existence, puis qui cherchent à percevoir le monde. Donc, lorsque vous êtes un lecteur et que vous rentrez dans les vagues, vous n'avez pas le choix de sympathiser avec au moins un des 6 personnages.
Et est-ce que c'est important de placer cette œuvre-là dans son contexte historique? Est-ce que il y a un contexte qui est important à savoir avant de commencer cette œuvre-là?
Bien, il faut savoir que, comme j'avais commencé à dire, elle rompt avec une tradition. Hein. Elle voulait créer le roman de l'avenir. Elle voulait qu'un roman, ça soit les biographies de l'être, et voulait être témoin des transformations des consciences. Donc, c'est pas « Oh, la marquée est sortie à 5 heures et elle fit ceci et cela ». On est très loin du roman balzacien. On est loin d'un roman sociologique avec une histoire bien cadrée. Donc, peut-être que la simple chose qu'il faudrait dire pour le contexte, c'est que c'est un roman qui fait éclater toute forme d'attente face au roman pour s'intéresser à des instants fugitifs, des moments de vision. Hein, elle appelle ça des « moments of being ». Puis, c'est tout. Mais le reste, qu'elle appartient à une famille de victoriens, tout ça, c'est intéressant pour la petite histoire. Mais tout ça est bien en deçà de l'intérêt que constituent en lui seul les vagues, même s'il est complètement décontextualisé. Donc, ne faites pas des recherches historiques maintenant. Précipitez-vous pour commencer la lecture des vagues. Et moi, je vais vous accompagner dans cette lecture. Puis on va commencer par lire les vagues et ensuite s'intéresser à Virginia Woolf ou le contexte.
OK.
Mais le roman se tient par lui-même.
Oui, malgré le fait que, comme vous le mentionnez, l'architecture là, du roman, c'est pas une architecture qu'on retrouve normalement avec le début, la montée, le point culminant, la coupe, la chute. La conclusion.
Ben, en même temps, on prend 6 personnages, 6 amis. Il y a un 7e ami qui n'a pas de voix, là, qui est Perceval, qui est au centre, là, qui est sportif. Bon, puis les 6 amis se rencontrent dans l'enfance, à l'école. Puis après, ils deviennent jeunes adultes, adultes, puis ensuite, plus vers la cinquantaine. Donc, il y a quand même une structure de vie. Hein? On les prend de l'enfant. On pourrait faire une série avec les vagues, là, c'est-à-dire qu'on les prend de l'enfance jusqu'à le début de la maturité, disons. Donc, c'est pas Virginia Woolf, là, lorsque vous aurez lu Les Vagues, puis que vous allez dire « Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? C'est le chef-d'œuvre. Je ne peux plus vivre de la même façon depuis que j'ai lu Les Vagues. » Et mais là, vous allez lire son journal. Le journal de Virginia Woolf, elle exprime comment est-ce qu'elle a écrit Les Vagues, c'était quoi son plan, c'est quoi ses objectifs, qu'elle n'est pas fière d'elle aujourd'hui dans sa journée d'écriture et tout et tout. Donc, finalement, une fois que vous avez lu Les Vagues, que vous avez compris Les Vagues, après, il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent être lues pour parfaire ou pour approfondir la lecture des vagues. Mais The Waves, parce que c'est le titre original, Les Vagues, The Waves, se tient en lui-même est capable de donner un choc, je crois, à toutes les personnes qui veulent entrer dans ce chef-d'œuvre et qui peut les accompagner toute une vie.
Et justement, le fait que ce soit une traduction, est-ce qu'on perd un petit quelque chose dans la traduction?
Bien, moi, quand je l'ai lu, je l'ai lu d'abord en français. Et la traduction de Marguerite Yourcenar, elle est sublime.
D'ailleurs, c'est la version que nous avons publiée là, sur notre page Facebook. Là,
j'ai
fait attention.
Il faut lire la préface, mais surtout la traduction de Marguerite Yourcenar, qui est tellement une écrivaine exceptionnelle, mais dans un tout autre genre. Et je l'ai lu en français. Après, je me suis précipitée pour le lire en anglais. C'était plus difficile, mais après, je suis revenue au français, puis à l'anglais. Mais la traduction de Marguerite Yourcenar, elle est vraiment merveilleuse et elle fait chanter le texte, là. Vraiment, elle le fait, elle rend justice
au texte original, oui, exactement.
Oui.
Moi, je me demande, en fait, vous avez dit que Virginia Woolf est surtout étudiée aujourd'hui dans une perspective féministe. Est-ce que ça transparaît dans Les Vagues ou est-ce que c'est pas son œuvre la plus féministe, mettons?
Oui, ça paraît dans la mesure où ce qui l'intéresse, qu'est-ce que c'est que le féminisme? C'est-à-dire que ce qui intéresse Virginia Woolf, c'est pas tellement une question de genre. Elle a pas des personnages typés. Elle est en deçà de ça. Elle cherche pourquoi un être peut être au monde. Comment est-ce qu'il peut développer sa perception pour devenir lui-même? En ce sens-là, elle est très féministe. Mais disons qu'elle a publié autre chose. Son œuvre est quand même assez volumineuse, là, et notamment Une chambre à soi, qui est peut-être son œuvre la plus connue, qui peut être lue comme un pamphlet féministe. Mais elle a publié des poèmes, Nuit et jour, La chambre de Jacob, Mrs. Dalloway, et ce sont toujours des femmes. Orlando aussi, c'est l'histoire d'un personnage qui passe à travers l'histoire d'homme à femme, à homme à femme. Donc, elle a vraiment une manière très humaine et qu'on peut se rattacher au féminisme, mais de concevoir une existence humaine dégagée de toutes les aspérités culturelles qui feraient que finalement les femmes sont enfermées.
Bon, ben j'ai déjà hâte à commencer à lire cette œuvre-là, vraiment. Mais pour l'instant, on doit prendre une petite pause musicale avec Umami de Claude Pelgag.
Bonne idée.
Donc, on est de retour à Littéralement Vôtre sur les ondes de CFAQ. On est encore avec la professeure Sarah Rocheville qui nous parle de Les Vagues de Virginia Woolf, qui est aussi notre défi de lecture pour cet été. Professeure Rocheville, vous pouvez continuer à nous parler de cette œuvre qui semble, ma foi, vraiment intéressante.
Excusez-moi, je vous entends plus.
Vous aviez peut-être quelques
petits
conseils de lecture pour nous, comment aborder un peu cette œuvre-là en tant que lecteur.
Attends une petite minute. Oh. Roxane?
Ça a bugué.
Oui.
Bon. C'est correct, on va le recommencer.
Au moins, ça n'a pas bugué pendant.
Ouais, on n'était pas rendu trop loin.
C'est ça. Donc, 3, 2, 1... Donc, on est de retour à Littéralement Vôtre sur les ondes de CFAQ. On est toujours avec la professeure Sarah Rocheville qui nous parle de Les Vagues de Virginia Woolf, qui est notre défi de lecture de l'été. Donc, si vous voulez vous joindre à nous, c'est encore le temps de... Et vous pouvez vous-même vous procurer l'œuvre. On a mis un lien sur notre page Facebook. Professeure Rocheville, on peut continuer un peu la discussion qu'on avait. Vous aviez peut-être des petits trucs de lecture, des petites pistes sur comment aborder l'œuvre pour un lecteur qui la commencerait en ce moment?
Oui, alors, cher lecteur qui avait décidé de vous attaquer aux vagues, je vais vous le dire tout de suite, la structure, c'est qu'il y a 6 personnages. Il y a Rhoda, il y a 3 personnages féminins, 3 personnages masculins. Il y a Rhoda, qui est un personnage suicidaire. Tout est difficile pour Rhoda. Il y a Suzanne, qui est vraiment une femme de la terre, là, qui est une terrienne, qui aime la campagne et bon, OK? Et qui est vraiment une femme ancrée, là, grounded, comme on dirait. Il y a l'autre personnage féminin, c'est Ginny, qui peut avoir l'air superficielle, mais qui est comme une bulle de champagne, là, qui a une espèce de joie de vivre, une sorte de superficialité aussi, puis elle se regarde dans le miroir, dans les surfaces du métro. Donc, on a vraiment 3 personnages de femmes. On a aussi 3 personnages d'hommes. Il y a Neville, qui est un esthète, qui aime la beauté, qui cherche la forme pure dans tout ce qu'il perçoit. Il y a Louis, qui est un Australien, qui a un accent, qui est complexé, mais qui veut vraiment arriver socialement. Et il y a Bernard, qui est le romancier, qui au fond, est le lien des 6 amis. Donc là, je vous ai présenté les 6, et ce que je vous suggère, vraiment très, très concrètement, c'est que vous commenciez dès la page 1, je vais vous lire le début, « Je vois un anneau, dit Bernard. Ah, je vois une bande jaune pâle, dit Suzanne. J'entends un bruit, dit Rhoda. » Donc, au début, c'est toujours des petites phrases courtes, puis là, vous savez qui dit quoi. Et attachez-vous le plus rapidement possible à un personnage. Est-ce que ça va être la suicidaire, la terrienne, l'esthète, l'Australien, le Ginny qui est comme une eau vive, ou Bernard qui a une grande maturité, une grande perception? Attachez-vous, aimez un des personnages, repérez toujours un personnage pour le connaître. Et j'étais un peu désarçonnée. Est-ce que c'est arrêté l'enregistrement?
Oui. Non, non, ça continue. Je pense que Roxane a quelques problèmes, mais vous pouvez continuer là, à discuter justement des personnages. Okay. S'attacher à un des personnages, vraiment, c'est la clé, c'est ça?
Oui, s'attacher à un personnage, puis après à 2 personnages, puis arriver à les connaître comme ça. Plutôt que dire, bon, ben, cher lecteur, nous lisons les 130 premières pages, parce que les 6 personnages arrivent toujours, un après l'autre. Donc, si vous en repérez un personnage, vous vous attachez à lui, vous le suivez particulièrement, ben là, vous allez vraiment mieux suivre l'histoire. Et oui, il y a une histoire, oui, c'est la vie vraiment. Là, ils sont dans l'enfance, ils deviennent adolescents, ils deviennent jeunes adultes, puis après, ils abordent la maturité à la fin du livre. Mais au lieu d'y aller par tranche temporelle, allez-y par personnage. Ça serait mon conseil.
Puis, est-ce que vous avez un conseil aussi pour choisir le bon personnage? Parce que, justement, ils sont différents. Est-ce que ça se peut que, bon, moi, je commence avec Bernard, mais soudainement, je me dise, ah, finalement, je vais peut-être suivre Suzanne un petit peu plus.
Ben oui, mais suivez les deux. Puis ça dépend où vous êtes. Moi, quand j'étais jeune, j'aimais tout de Rodin, la vie suicidaire. J'aimais tout. Je me sentais comme Rodin. J'avais une difficulté. Je trouvais qu'elle mettait des mots sur Rodin et moi. C'est comme si je m'identifiais totalement à Rodin. Mais Rodin détestait Suzanne. Donc, finalement, j'étais proche de Suzanne aussi. Puis Bernard est amoureux de Suzanne. Puis là, finalement, on se rencontre, des liens qui lient. Mais si vous partez d'un alter ego, parce que vous allez trouver votre compte, les six personnages ou les sept personnages, parce qu'il y en a un qui est muet, mais les six personnages correspondent, selon moi, à l'ensemble des humains, là, d'une certaine façon. Vous trouvez des affinités avec un personnage. Puis, lorsqu'on va se reparler au milieu de l'été ou à la fin de l'été, on va approfondir la psychologie de ces personnages-là, si on peut parler de psychologie, mais leur comportement ou ce qu'ils pensent ou comment ils perçoivent le monde. Mais accrochez-vous à au moins un, puis vous allez voir qui est en relation avec ce personnage. Donc, je répète, Rhoda, Suzanne la Terrienne, Neville qui aime le beau, qui est vraiment un esthète là, dans les arts, Louis qui a une sorte d'énergie, mais hein, on sait que ça se passe en Angleterre, puis lui il vient de l'Australie, donc d'une colonie, là, il vient vraiment, Ginny qui est merveilleuse, là, qui a l'air d'être toujours dans la surface, mais il y a une sorte de profondeur inouïe en elle qui ne veut pas vieillir, puis bon, et Bernard qui est un être si sensible avec plein de limites. Donc, en fait, ça dépend, vous, lecteur, où vous êtes dans votre vie. Si vous... Moi, maintenant, je me sens beaucoup plus proche de Bernard, je me sens proche de Ginny, alors qu'avant, je me sentais proche de Neville et Rodin. Donc, ça dépend où vous êtes vous-même dans votre vie. Et c'est ça la force des grands livres, c'est que peu importe quand vous lisez dans votre vie, vous y trouvez votre compte, vous y trouvez une manière de formuler qui vous aide à vivre. Et c'est un livre qui nous aide à vivre.
J'ai hâte de découvrir à quel personnage je vais me rattacher, mais oui. Aussi à quel personnage, Roxane, tu vas t'attacher et à oui. Quel personnage nos auditeurs et auditrices vont s'attacher.
Ah, j'aimerais ça avoir cette discussion.
Écrivez-nous sur Facebook parce que définitivement, je pense qu'on pourrait y revenir la prochaine fois qu'on va en discuter de cette œuvre. Oui. Parce que oui, on va pouvoir plonger dans la psyché des personnages parce que moi, je dois avouer que j'ai déjà assisté clandestinement à un de vos cours.
Ah bon? Moi, j'ai participé activement à plusieurs de vos cours, vu que je vous ai vu deux fois.
Et c'est ce qui m'a donné l'idée de ce défi. Et puis... Donc, je pense non, que définitivement, ça vaut la peine de plonger dans cette revue-là.
Est-ce que vous avez lu les vagues, tous les deux? Okay.
Pas encore, justement, parce que je pense c'est vraiment un roman qui, selon moi, faut prendre le temps de le lire. Je dois avouer avoir essayé de le commencer. Oui. J'avais lu les premières pages, mais je trouvais ça extrêmement difficile à lire. Oui. Puis, c'est aussi ça qui m'a donné l'idée de ce défi, parce que j'ai l'impression qu'avec votre aide, votre analyse, ça va être beaucoup plus facile, je pense, de bien comprendre l'importance de cette œuvre-là. Parce que,
oui,
comme vous l'avez dit...
Oui, c'est une œuvre qui nous accompagne. Mais il faut une première fois, il faut une première traversée. Puis déjà, à la deuxième lecture l'année prochaine, ça va être beaucoup plus confortable. Puis à la troisième lecture, puis à la quatrième lecture. Puis c'est vraiment... Il y a un effet, les vagues, extraordinaire dans la vie d'un humain.
Et est-ce que votre version de les vagues, j'imagine... Est-ce qu'elle est annotée avec différentes notes selon la fois où vous l'avez lue?
Non, moi, j'annote pas. Je mets une petite ligne à côté parce que c'est un peu comme la Bible. Je l'ouvre n'importe où, je lis un paragraphe, puis j'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer parce que c'est juste. Mais non, je n'annote pas mes livres. Mais je les ai en plusieurs exemplaires, puis j'ai un rapport un peu désordonné à mes livres. Souvent, je les rachète. Quand je les trouve pas, je les rachète. Donc, j'ai pas une copie. Je prête aussi beaucoup, beaucoup mes livres aux étudiants ou aux amis. Donc, je n'ai pas de sentiment d'appartenance ou mon exemplaire avec mon écriture ou mes annotations. Ce n'est pas moi que je chercherais ou ma propre lecture que je chercherais dans mes exemplaires. Et okay. J'ai toujours été comme ça. J'ai pas de sentiment d'appartenance face à l'objet.
À l'objet en tant que tel, c'est plus l'œuvre elle-même.
Oui, mais j'ai ce même rapport aux maisons aussi, donc c'est,
ah bon?
C'est un cas incurable.
Est-ce que vous recommandez peut-être justement de mettre des traits, d'essayer de bien séparer les personnages quand on remarque des séparations de personnages?
Ben en fait, si vous voulez lire très sérieusement, là, bien faire vos devoirs, là, premièrement, ça a l'air drôle à dire, mais acceptez de pas tout comprendre. Acceptez de pas comprendre grand-chose. Coulez-vous. Juste, hein, allez avec le flow, là. C'est vraiment...
OK. Allez juste... avec les vagues.
Oui, oui, ça. Juste avec les vagues, là. Dites-vous, je n'essaie pas de comprendre, je persiste, je lis. Et vous savez que la marque d'un bon livre, c'est quand on lève les yeux régulièrement parce qu'on en a besoin. Alors, si vous êtes dans un page-turner puis vous avez besoin... En fait, moi, je pense qu'il y a deux sortes de livres. Là. Il y a les livres avec un scénario où c'est vraiment... on veut savoir la suite puis chaque chapitre nous propulse vers le prochain. Ça, c'est une sorte de livre. L'autre sorte de livre en littérature, ce serait les romans de voix, où c'est seulement une voix qui vous parle. Puis ça, on n'est pas obligé de se précipiter vers le deuxième chapitre ou la troisième page ou la quatrième page, cinquième page. Donc, quand vous en avez eu assez, vous levez les yeux, c'est tout. Là, vous foncez là-dedans, là, en vous coulant en ce début d'été, sans essayer de comprendre. Et votre cerveau, malgré vous, va essayer de mettre un peu d'ordre là-dedans et là, va s'accrocher à un personnage. Et là, si vous êtes sérieux, vous pouvez prendre un beau cahier neuf, puis écrire le nom du personnage qui vous a accroché, mettons Bernard. Puis là, vous dites, ah, qu'est-ce qu'il fait Bernard? Qu'est-ce qu'il dit? Puis là, vous prenez des notes sur Bernard. Donc, pour faire une espèce de portrait robot de Bernard. Puis, il va apparaître dans vos propres notes, comme ça. Mais là, à votre première lecture, là, l'ambition, là, c'est pas de comprendre, c'est d'être touché.
Parfait. Ben, de toute façon, nous, on sera là durant l'été pour aider à comprendre l'œuvre. Donc, si vous comprenez pas, pas de problème.
Non.
Continuez à lire.
Tout va
je
bien.
Peux vous assurer qu'on va être dans la même situation de notre côté. Bon, ben merci beaucoup, professeur Rocheville. Vraiment, je pense que c'est un bon défi qu'on lance à tout le monde qui nous
oui.
écoute. Et puis, j'ai vraiment hâte de vous reparler au courant de l'été pour qu'on puisse en rediscuter.
Moi aussi, j'ai très hâte.
Oui, on s'en va en musique avec notre dernière chanson, qui est Income Tax du Petit Béliveau.
En old blue sun is still a joke. Papa gouvernement on mon arrière dans son coffre. Souvent je fais les affaires last minute. Ma point mes income tax, ça m'excite. Pis ça fait chaque semaine que je les ai filés. Check ma mailbox au moins 4 fois every day. Oh man, qu'au sexte l'est ici qui farinque d'arriver. Farinque d'avoir mon income tax return. Tonight the party never ends. Farinque d'avoir mon income tax return. Tonight we gonna watch it burn. Farinque d'avoir mon income tax return. Tonight the city never. Ça fait que je prends mon fond pis je colle tous mes frais. Je dis que tu sois au party jusqu'au lendemain. Pis point d'avouer sur les snacks ou la bouse. À cause mes poches sont pleines and I'ma blow a fuse. Va blow et friggin' 200 pièces à Walmart.
Va blow et friggin' 200 pièces à Walmart.
Va blow et friggin' 40 pièces au Taco Bell.
Va blow et friggin' 40 pièces au Taco Bell.
Va remplir ma carte de friggin' Supreme Gas.
Va remplir ma carte de friggin' Supreme Gas.
Va blow et friggin' 300 pièces au liquor store.
Va blow et friggin' 300 pièces au liquor store.
Farek d'avoir mon income tax return. Tonight the party.
Donc, c'était ça pour Littéralement Vôtre aujourd'hui, mardi le 19 mai. Albert, on a fini une deuxième émission pour la saison d'été, encore à distance. Écoute, on va être là la semaine prochaine aussi, c'est pas mal certain.
Oui, on va encore être là la semaine prochaine. Pas mal certain qu'on va aussi être à distance, parce que ça s'aligne pour être à distance, je pense, pas mal tout l'été. Mais j'espère que cette période-là va vous permettre de participer vraiment à notre cours, à notre défi de littérature, parce que vrai, ça s'annonce, là, je pense, incroyable. Vraiment, on est très chanceux d'avoir professeur Rocheville avec nous pour pouvoir en discuter. C'est une ressource, je pense, inestimable. Donc, vraiment, là, on la remercie du fond du cœur de nous aider avec ce projet-là.
Tout à fait. Puis on vous souhaite une bonne semaine. On se revoit la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.